La grande table des livres avec aujourd'hui trois journalistes à l'essai. Toutes les années, nous vous proposons, tout au long de l'année plutôt, nous vous proposons dans cette demi-heure des auteurs de livres politiques, sociologiques, économiques, philosophiques, anthropologiques et j'en oublie bien d'autres. Ils documentent ou ils analysent le réel. Ils nous aident en tout cas à y voir plus clair, voire à avoir les idées claires. Aujourd'hui, quels essais ont compté pour eux cette année? Quelles idées, quels penseurs ont-ils envie de défendre? Et ce, juste avant l'été, saison idéale pour lire, pour apprendre, pour réfléchir, voire pour méditer. Avec vous jusqu'à 13h30, Nicolas Domenach, directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire, mensuel partenaire toute cette saison, qui sort aujourd'hui son numéro d'été, numéro qui voit double, autour des couples littéraires et des destins croisés. Bonjour Nicolas Domenach.
Bonjour à vous.
Un coup de cœur dans tous ces couples que vous nous présentez dans ce magazine. Est-ce qu'il y en a un que vous avez spécialement choisi? Je peux vous aider, Marcel Proust et James Joyce, Guy de Maupassant et Gustave Flaubert, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, Adolf Hitler et Ludwig Wittgenstein, Anna Arendt et Martin Heidegger, Anaïs Nin, Henri Miller, arrêtez-moi, hein, parce que sinon...
Miller et Marilyn Monroe, voilà, un couple improbable, en tout cas, qui a duré, qui a inspiré, et même Marilyn Monroe, elle a écrit, ça lui est arrivé, c'est très touchant, c'est d'ailleurs ce qu'elle a rédigé, donc voilà, il y a des découvertes, et puis il y a des couples classiques, hein, Sartre, Beauvoir, on ne pouvait pas le manquer, et revenir dessus, c'est des rencontres qui ont fait des vies, et parfois plus romanesques que les romans même.
Et Houellebecq et Bernard-Henri Lévy?
Eh ben, nous l'évoquons, mais si c'est quand même un couple qui tient depuis des années, vous avez remarqué, ils s'écrivent beaucoup, 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 et puis ils se respectent, c'est incroyable.
Ils s'écrivent quoi?
Ben, ils s'écrivent des lettres, et ils en font des livres après. Alors, bon, c'est moins lu que les romans de Houellebecq, mais c'est quand même, c'est intéressant comme dialogue.
À vos côtés, deux voix de l'antenne pour un passage de relais, Emmanuel Laurentin, qui a refermé ce matin sa fabrique de l'histoire et qui arrive à la rentrée autour de 18h20. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Olivier Gisbert.
En remplacement d'Hervé Gardette, le meunier du grain depuis 8 ans qui rejoint lui les matins. Bonjour Hervé.
Bonjour Olivia.
Elle a un titre cette émission nouvelle, Emmanuel?
Pas encore, non, on y travaille.
Ne portera conseil. Vous avez un mot à dire Hervé tout de suite à Emmanuel?
Oui, j'ai essayé de laisser le bureau assez propre. Voilà, j'ai tout rangé. Donc, j'espère qu'il saura en faire bon usage. Non, oui. Puis bonne chance. On se tutoie, on se vous voit. Comment on fait dans ces cas-là, cher Emmanuel? En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Vous verrez, ce créneau est un créneau formidable.
Ben, merci beaucoup Hervé, et je vais essayer de construire quelque chose sur ce que vous avez construit vous-même avec votre équipe.
Ça
quelque chose d'un peu compliqué pendant cet été, mais on va y arriver.
Il y en a qui partent avec les enfants comme ça quand ils quittent la maison. Est-ce que vous êtes parti avec tous vos livres, Hervé?
Oui, je pars avec
la bibliothèque.
Alors moi, je pars sans mes enfants et avec quelques ouvrages en effet, parce qu'il va falloir que je prépare cette chronique de la rentrée sur la transition écologique et énergétique, et que je me documente un petit peu pour essayer de pas raconter trop de bêtises à la rentrée.
On commence avec vous, Emmanuel Laurentin, sera gage de sérieux pour bien commencer, et les réflexions sur les fausses nouvelles de la guerre de Marc Bloch, alors un grand historien. Le livre n'est pas paru cette année.
Ah non.
Hein, mais bon, il vous faut un peu de temps pour quitter aussi l'histoire
et vous
actualiser totalement. Et voilà, et vous allez nous dire pourquoi, en quoi cette réflexion sur la nature de la vérité, sur les fausses informations aussi, en temps de guerre, vous a furieusement semblé d'époque.
Et bien sûr, parce qu'on sait tout le débat qu'il y a depuis maintenant plus d'un an, voire deux ans, autour de la question des fake news et de la façon dont on pourrait les combattre. Et c'est le meilleur, à mon avis, remède justement à ces fake news. Parce que Marc Bloch était soldat pendant la Première Guerre mondiale. Il l'a d'ailleurs été aussi pendant la Seconde, puisqu'il a décidé de s'engager. Et il a été fusillé donc à la fin de la guerre en 1944. Mais Marc Bloch, pendant cette Première Guerre mondiale, se trouve sur le front. Et ce qu'il découvre, c'est comment circulent des fausses nouvelles à l'intérieur des tranchées? Que font les communautés humaines lorsqu'on est ensemble et lorsqu'on se raconte des histoires? Et des histoires auxquelles on finit par croire au bout du compte. Parce que c'est ça qui est intéressant dans Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, qui, moi je l'ai dans une édition de chez Alia, c'est un tout petit livre, puisque c'était un article au départ pour la revue de synthèse historique, et il l'a publié en 1921. Ce qui est intéressant, c'est que Marc Bloch, aujourd'hui on parle toujours de ces historiens qui s'intéressent aux contemporains, Marc Bloch s'intéresse en 1921 à quelque chose qui s'est terminé en 1918-1919. Il arrive à en faire, en tant qu'historien, l'analyse, et donc de parler d'une actualité très brûlante et très chaude, de savoir comment on peut raconter n'importe quoi dans une tranchée entre soldats. Et par exemple, il nous explique une toute petite chose, mais il nous explique que, eh bien, on avait imaginé qu'il y avait à l'arrière du front des Allemands qui étaient là depuis longtemps, qu'ils avaient changé leur identité, qu'ils étaient présents à l'arrière du front et que ils étaient là pour pouvoir justement préparer la contre-offensive allemande. Et il explique, il démonte comment c'est totalement faux dans cette réflexion sur les fausses nouvelles de la guerre. C'est un bel exemple de la façon dont un historien ou une historienne peut réfléchir aux contemporains et nous permettre à nous de réfléchir à ce qui circule dans nos cercles, en dehors de nos cercles. Alors on met toujours en cause évidemment les réseaux sociaux et l'internet, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'internet en 1921 et en 1918, et néanmoins ces fausses nouvelles circulaient.
Avec Milena Illig, Maya Neskovic vous a choisi une chanson, Emmanuel, on l'écoute et elle vous l'explique après.
Effectivement, avec Milena, notre formidable réalisatrice, nous avons trouvé cette chanson qui s'appelle « La troisième couleur » qui a été composée en 1916 et qui raconte l'histoire de cet enfant abattu par erreur, victime civile de la guerre, mais également de la psychose allemande sur la présence de francs-tireurs parmi la population civile. Alors c'est une histoire qui a eu lieu en août 14 dans le village frontière de Magny, donc tout au début du conflit, et qui a été l'une des fake news les plus prolifiques de la Première Guerre mondiale et qui a donné lieu un tas de chansons. Il y a eu même des cartes postales et voilà, qui ont prolongé en fait cette fake news, donc sans réseaux sociaux, sans Twitter et Instagram.
Oui, c'est intéressant, ces questions de fake news, elles remontent en fait à la guerre de 1870. Les Allemands racontent qu'ils ont été agressés dans le dos par des Français et par des francs-tireurs. Et à partir de ce moment-là, il y a toute une réflexion qui se fait dans l'armée allemande en se disant il ne faut pas que ça se reproduise. Or, c'est totalement faux. Enfin, ça n'est pas totalement faux, mais il y a beaucoup de faux là-dedans. Et d'ailleurs, Marc Bloch, dans ses réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, dit qu'en Allemagne, on trouve des témoignages de soldats, des articles de presse, des procès-verbaux officiels. La plupart de ces textes avaient été rassemblés en Allemagne, justement. Et dès les premiers combats, quand se répandirent parmi les troupes assaillantes et à l'arrière ces récits atroces, justement, de francs-tireurs, on explique que les Belges, par exemple, des deux sexes, sont des bêtes altérées de sang. Et donc, il va falloir se méfier de ces Belges parce qu'ils vont, là aussi, vous attaquer de manière très violente. Donc, il y a effectivement cette idée qu'il y a un adversaire, un ennemi, évidemment, on est en guerre, mais que cet ennemi, son image est nourrie par évidemment tout ce qui précède et en particulier toutes ces fausses images et ces fausses idées qui viennent de la guerre de 1870.
Trois journalistes producteurs à l'essai jusqu'à 13h30 avec nous, Hervé Gardette, Emmanuel Laurentin, que vous venez d'entendre autour de son premier choix de lecture, les réflexions sur les fausses nouvelles de la guerre de Marc Bloch, édité chez
Alia.
Et
il y a sûrement d'autres éditions, mais je connais.
Mais c'est celle que vous avez avec vous, en tout cas. Et Nicolas Domenac, directeur de la rédaction du Nouveau Magazine Littéraire, qui nous a accompagnés tous les mois tout au long de l'année. Vous avez choisi, vous, les tribulations du sociologue Gérald Bronner, avec cet essai qui vient de paraître chez Grasset, Déchéance de rationalité. Et c'est un plaidoyer, là encore, pour la rationalité dans un monde qui deviendrait fou, un monde où le débat s'illustre par sa virulence, un monde où la vérité, dit-il, est frelatée. Sachons raison garder, nous dit Gérald Bronner.
Oui, ça va très bien dans la suite de Marc Bloch, hein, parce que Gérald Bronner, d'abord pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sociologue, c'est le sociologue pour moi, un peu, c'est, au fond c'est le Roland Barthes d'aujourd'hui, l'homme qui questionne la société, qui l'interpelle, qui nous la décrypte à travers ses nouvelles mythologies et à travers, au fond, ces fake news qui, c'est vrai, ont existé depuis bien longtemps, mais qui se démultiplient. Et donc il les démonte là, et tout particulièrement dans son dernier ouvrage, à la faveur d'un travail qu'il a fait dans un centre de déradicalisation, un des premiers, et d'ailleurs ce qu'il raconte sur les tâtonnements, les erreurs, les marches arrière, marches avant, marches de côté de l'administration, c'est absolument passionnant et sidérant et inquiétant, mais on en sort quand même rasséréné pour deux raisons. La première, c'est que c'est un combat à la rationalité, et il le pose comme ça, face à tous ceux qui, par commencer par Trump, mais à tous les niveaux, multiplie les fake news. Et il en donne de multiples exemples. On en voit, nous, tous les jours, hein, l'incendie de Notre-Dame. À chaque événement qui se produit, on voit déferler les fausses nouvelles et se démultiplier. Et au fond, il nous donne un manuel du combattant aussi, qui est que il faut muscler la raison, il faut muscler la rationalité, la réflexion pour lutter contre les fake news. C'est pas un combat perdu, dit-il. Et c'est un combat qui doit se mener, qui peut aboutir soit au fond à une régularisation non liberticide, soit alors là un avenir beaucoup plus sombre, et qu'on peut, en lisant Gérald Bronner, on peut prévoir et s'en préserver.
Oui, Hervé Gardet, Gérald Bronner, vous l'avez lu ou reçu autour de
Je l'ai reçu. Je l'avais reçu d'ailleurs avec Jean-Marc Rouillant. Il raconte justement dans ce livre son dialogue dans le cadre du Grain à Moudre. On avait posé la question jusqu'où poussait la déradicalisation. Jean-Marc Rouillant, ancien leader d'Action Directe. Je crois que c'est une émission qu'il avait pas mal marqué. Et Gérald Bronner sera un des invités du dernier Grain à Moudre ce soir à 18h.
C'est bien fait.
On aurait voulu le faire exprès. On n'en
essaie pas. Mais non, nous sommes toutes crédules.
En complément, pardon, on doit faire la toute petite pub pour le magazine littéraire. Il tient une chronique tous les mois sur démonologie, c'est des merveilles. C'est-à-dire, au fond, quelles sont les mythologies négatives qu'on se fabrique, quels sont les adversaires qu'on a dans la tête, et c'est passionnant. Voilà, j'ai terminé le petit moment.
Maya, si tout le monde fait sa pub, on pourrait faire notre pub aussi. On va recevoir Gérald Bronner l'année prochaine.
Peut-être,
qu'on est passé à côté de cet essai, peut-être cette année. Voilà, et on continue avec vous, Hervé Gardet. Ouais. Julia Caget, c'est votre choix, le prix de la démocratie chez Fayard. Alors on peut faire peut-être la pub des rencontres de Pétrarque ou...
Oui, parce qu'en fait j'ai fait des choix tout à fait intéressés.
Une invitation a été lancée à Julia Caget, et on espère qu'elle y répondra.
À Nicolas Domenac en lui disant, voilà, si vous pouvez parler de Gérald Bronner pour ce soir. Julia Caget qui sera présente donc lundi aux rencontres de Pétrarque à Montpellier, 19h-20h, avec Jean-Bernd Baume, le directeur du Monde des Livres. Le prix de la démocratie, c'est donc le dernier livre de Julia Caget chez Fayard, dans lequel elle part d'un constat. Alors, tout le monde fait le constat d'une crise de la démocratie. Elle le fait de son point de vue, qui est le point de vue de l'économiste, en considérant qu'il y a un problème notamment de financement de la vie politique, même si en France c'est très régulé, c'est plafonné, mais il y a quand même des aides qui profitent du fait des déductions fiscales. D'abord aux personnes qui sont les plus aisées. Elle considère que c'est un élément qui crée des inégalités, que ça revient aussi à financer sur fonds publics les choix politiques des plus riches. On voit que, par exemple, la philanthropie se développe de plus en plus et se substitue notamment à la décision publique. Et elle a un certain nombre de propositions. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est ce que j'aime bien, en fait, avec Julia Caget, c'est qu'elle se contente pas de faire des constats. Elle a aussi des propositions. C'est un essai d'intervention. Et elle propose la création d'un BED. Alors le BED, non, ça n'est pas ce que vous pensez, Olivia. Oui, c'est ça, Olivia Gessler. Oui,
je savais. Oui, on l'appellera pas pour faire notre réclame, oui.
La création.
Vous allez dire Julia, en même temps, ça se termine par
Voilà.
Hervé Gardet.
La création de bons pour l'égalité démocratique. Je vous lis juste ce que c'est, parce que c'est elle qui l'explique le mieux. C'est un nouveau modèle de financement public. Chaque année, au moment de sa déclaration d'impôt, chaque citoyen choisira le parti ou mouvement politique auquel il souhaite voir allouer ses 7 euros d'argent public. C'est-à-dire, c'est ce qui correspond à la dépense publique annuelle. Et ça viendra remplacer le système de financement public bancal et régressif qui est en place aujourd'hui avec les BED. Une personne égale un financement public identique pour chaque citoyen égale une voix. Voilà, je trouve que c'est une proposition intéressante. Et qui renouvelle un petit peu la pensée de cette crise démocratique qui alimente énormément d'essais.
En écho à cet essai de Julia Caget, le prix de la démocratie paru donc chez Fayard, une grande enquête de la cellule Investigation de Radio France qui s'est penchée sur les grands donateurs des campagnes présidentielles et notamment celle du candidat à l'époque, Emmanuel Macron. À partir de l'analyse de toutes les données qu'ils ont pu récolter, ils ont fait un premier constat. Le mouvement En Marche a vraiment réalisé un très bon score en termes de donations à Paris, avec 6,3 millions d'euros qui ont été donnés aux candidats par un peu plus de 15 000 habitants de la capitale. On écoute un extrait de ce grand reportage Investigation de la cellule de Radio France.
J'ai créé un mouvement politique le 6 avril dernier. Il n'a aucune subvention publique. Aucune. Pour le mouvement, j'irai solliciter la générosité des Français, d'autres, pour justement le financer. Et je le ferai sans aucun état d'âme.
Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Alors que disent ces chiffres ?
Eh bien, ils disent que la moitié des 16 millions qu'a levé Emmanuel Macron en 2016 et 2017, la moitié, 8 millions, viennent des grands donateurs, ceux qui ont fait des chèques de plus de 4 500 euros, c'est-à-dire environ 800 personnes, dont certains ont donné jusqu'à 40 000 euros. L'équipe d'Emmanuel Macron a en fait utilisé au maximum la réglementation électorale en jouant sur les dons aux partis, les dons aux candidats, la possibilité de donner deux fois à l'intérieur du couple, ce qui fait à l'arrivée vite fait de grosses sommes.
Et dans ce contexte, on comprend qu'Emmanuel Macron se soit tourné vers les dons des particuliers.
Et s'il a ciblé d'abord et en priorité les gens capables de faire un chèque de plusieurs milliers d'euros, c'est qu'il a exploité une spécificité française qu'a montré l'économiste Julia Caget dans un livre, Le prix de la démocratie, qui s'appuie sur des données fiscales inédites.
Il y a très peu de gens qui donnent ou contribuent chaque année à un parti politique. On est à 0,79% des foyers fiscaux en moyenne, donc c'est vraiment très faible. Par contre, ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point ce chiffre est élevé pour les plus riches. Le pourcentage de foyers fiscaux qui donnent parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, c'est 10%. Donc les plus aisés financent le jeu démocratique en France.
Julia Caget, dans cet extrait donc du reportage de la cellule Investigation sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron, Nicolas Domenac.
Oui, un livre passionnant, effectivement, qui comprend des propositions qui sont importantes pour l'avenir. Simplement, si on voulait être taquin avec Julia Caget, ça serait de lui dire qu'au fond, on ne peut pas faire un trait comme ça aussi direct entre le résultat d'une élection et le financement. Sinon, Nicolas Sarkozy aurait gagné, sinon Benoît Hamon, qu'elle a soutenu, aurait fait un bien meilleur score, il a eu beaucoup d'argent, il a fait un tout petit score. Donc il y a quand même d'autres variables, on peut pas réduire ainsi un peu rapidement.
Est-ce que vous voulez que je le lui dise, oui. Par exemple lundi de 19h20 à 20h à Montpellier, aux rencontres de Pétrarque ?
C'est tout ?
Oui, c'est tout.
Je pensais que vous alliez vous faire son avocat avec Gardette, c'est raté. On va revenir à un autre essai que vous avez choisi pour continuer sur cette lancée. Gouverner le peuple roi, c'est vous Hervé Gardette, de Pierre-Henri Tavoyot.
Ouais, c'est publié chez Odile Jacob. C'est un traité d'art politique. Alors déjà, ça c'est quelque chose d'intéressant, parce que comme il le dit lui-même, c'est une formule qui n'était plus beaucoup usité depuis quelques temps. Il s'intéresse à l'art de gouverner. Bon, ça, il y a évidemment énormément d'ouvrages là-dessus fort connus, mais aussi sur l'art d'être gouverné, c'est-à-dire quels efforts ça demande, quelles compétences ça exige de le faire. Pierre-Henri Tavoyot, ce qu'il a aussi d'intéressant, alors c'est un philosophe, c'est un fervent défenseur de la démocratie représentative dans un moment où on est soit tenté par l'autoritarisme, soit de l'autre côté par une radicalisation de la démocratie, avec, vous savez, notamment le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne, la question de la démocratie participative. Lui, il dit, il faut quand même défendre la représentation. Et là aussi, si vous permettez, j'ai un petit extrait que je trouve c'est assez symbolique de ce qu'il a écrit, Pierre-Henri Tavoyot. La démocratie n'est pas à la portée du premier venu, c'est un régime compliqué et exigeant. Alors, pour ceux qui ne veulent pas faire l'effort, la dictature est toute conseiller. Obéir à un chef dont la personne paraît irradiée par la transcendance ne pose aucun problème. En revanche, s'imposer des gouvernants qui vous ressemblent, reconnaître que l'autorité est une nécessité intérieure et collective, obéir à des lois qui ne sont qu'humaines, tout cela demande une rigueur et une discipline sans pareil. Voilà, c'est l'art d'être gouverné et je vous conseille vraiment la lecture de cet essai.
Emmanuel Laurentin ?
Je l'ai pas lu, donc je peux pas en dire grand-chose. Je pense qu'effectivement, ça s'inscrit dans une très longue histoire des traités de l'art de gouverner qui remontent au moins à l'Empire romain, mais plus généralement aussi à la Renaissance italienne. Mais il faudrait que je le lise, je l'ai pas encore lu. Et je le lirai pour l'année prochaine.
C'est cadeau, Emmanuel. Merci. Je vous l'offre.
Voilà, vous pouvez commencer par l'écouter.
Vous me l'enverrez à la fin, par contre.
Non. Vous pouvez commencer par l'écouter, Emmanuel Laurentin, à la grande table où il a été invité
et cette année, voilà.
Et où Hervé Gardette l'a sûrement découvert en tendant une oreille à l'heure du déjeuner.
Ouf,
On est en compagnie d'Emmanuel Laurentin, d'Hervé Gardette et de Nicolas Doménac jusqu'à 13h30 pour leurs conseils de lecture des essais pour l'été. France Culture, 13h17.
France Culture. La grande table, Olivia Jesper.
Pierre-Henri Tavoyau, ça fait partie des choix de programmation de Maya Neskovic cette année avec beaucoup d'autres, toutes ces émissions donc pensées pour vous autour des essais, des enquêtes, des grands documentaires aussi qui nous informent sur le réel. Avec vous, Maya Neskovic, un choix de lecture pour l'été d'un invité, d'un anthropologue qu'on aurait beaucoup aimé avoir et qu'on n'a pas reçu cette année, mais
si Emmanuel Laurentin nous l'avait pas piqué.
Tu vois, c'est les règlements de compte. On n'avait pas dit que j'arrivais dans un guet-apens.
Non, mais en plus, c'est une très bonne réponse à l'ouvrage de Pierre-Henri Tavoyau, donc, puisque l'anthropologue en question, c'est James C. Scott, qui est anthropologue américain, anarchiste et néanmoins professeur à Yale, et qui poursuit son travail d'historien des résistances à l'État dans son dernier livre, Homo Domesticus. Alors, James C. Scott, il avait écrit Zoumia ou l'art de ne pas être gouverné, voilà, que je conseille également. Et donc son dernier livre, Homo Domesticus, pour la version française, est Against the Grain, en anglais, qu'on pourrait traduire par de la résistance à la céréale. Alors pourquoi la céréale? Eh bien parce que, explique Scott, entre le moment où sont apparues les premières formes de domestication des plantes, donc d'agriculture, et sa généralisation à l'ensemble des communautés humaines, il s'est passé 4000 ans. Et Scott de se demander, mais pourquoi donc les hommes ont-ils mis tant de temps à adopter ce qui nous a toujours été présenté comme une réalisation, la plus grande des réalisations humaines? Eh bien, nous explique Scott, parce que, comme dirait Guillaume Erner, l'agriculture est un super fail, un gros ratage, un modèle de contre-productivité. Figurez-vous que les chasseurs-cueilleurs passaient en moyenne 3 ou 4 heures par jour à travailler pour subvenir à leurs besoins essentiels. L'agriculture et l'élevage, vous n'êtes pas sans savoir, ça demande une attention constante et un volume de travail beaucoup plus important, ce qui fait dire à Scott que ce n'est pas l'homme qui a domestiqué les plantes et les animaux, mais l'inverse. Voilà, à nos amis antispécistes. Mais le plus réjouissant, c'est de comprendre comment finalement, c'est la culture de la céréale, et de certaines céréales en particulier, le blé, l'orge, le riz, parce qu'elles ont des caractéristiques qui permettent de savoir quand elles poussent, parce qu'elles poussent en dehors de la terre, etc., qui jouent le rôle de levier décisif qui permet l'existence de l'État. La céréale a l'avantage de fixer l'agriculteur sur un site, mais aussi d'être divisible, stockable et donc taxable. La céréale permet le prélèvement de l'impôt. Et l'impôt fait l'État. C'est parce qu'il y a eu agriculture qu'il y a eu regroupement et concentration de populations et d'animaux, et donc multiplication des épidémies, hein, entre autres joyeusetés. Et c'est parce qu'il y a eu agriculture qu'il y a eu guerre et esclavage, parce qu'il fallait bien trouver de la main-d'œuvre pour récolter et donc prélever l'impôt. L'État, nous dit Scott, n'a donc pas été créé pour assurer le bien-être de populations qui auraient choisi de se regrouper pour une vie meilleur, mais surtout pour le bien-être des élites qui collectaient l'impôt. Bon, évidemment, après tout ça a évolué, le welfare state, etc. Et donc, je me disais que l'été, c'était la période de l'année où on change ses habitudes, où les journées sont rythmées complètement différemment, où finalement, on fait baignade, sieste, course pour l'apéro, et puis on allume le feu pour le barbecue, où finalement on travaille que quelques heures par jour pour subvenir à nos besoins essentiels. Et donc, je me dis que c'est peut-être le moment ou jamais de changer de perspective, de changer nos imaginaires, parce que comme le dit un autre auteur dont j'aurais pu conseiller le livre, Alain Damasio, pour changer le monde, il faut d'abord changer les imaginaires. Donc imaginons nous, en chasseurs-cueilleurs, et peut-être c'est le début d'un grand changement.
Emmanuel Laurentin, puisque vous, vous l'avez reçu.
C'est un très grand livre, effectivement, c'est un livre très important qui permet de voir aussi qu'on peut être relativement âgé et changer complètement son mode de raisonnement. Puisque l'avantage de ce livre de James C. Scott, c'est qu'il explique qu'il ne s'était jamais posé la question en tant qu'anthropologue, en tant que spécialiste de sciences politiques, de cette préhistoire dont on parle tout le temps. Puis il a commencé à discuter, il voulait faire des cours à Yale autour de cette question-là. Il a commencé à discuter avec ses étudiants, qui lui ont conseillé des lectures sur ce qu'il croyait être justement la préhistoire qu'il avait imaginée. Puis en fait, il s'est rendu compte que les recherches archéologiques avaient complètement bouleversé sa vision du monde qu'il avait acquise dans les années 50 ou dans les années 60. Et il s'est mis à travailler pour comprendre pourquoi ce qu'on lui avait raconté n'était plus vrai. Donc c'est un véritable manuel sur qu'est-ce que la recherche et comment elle pénètre chez chacun d'entre nous.
Vivons-nous une époque ou une année charnière? Sommes-nous dans un monde en transition? Ce sont quelques-unes des questions que vous allez vous poser tous les matins l'an prochain, Hervé Gardette, et que vous allez nous aider à éclaircir, puisqu'on se les pose aussi. Je vous ai demandé s'il y avait un livre, un discours qui vous avait mis un peu de la puce à l'oreille pour choisir de vous saisir de cette thématique de la transition, qu'elle soit numérique, écologique, énergétique, économique, etc. Et vous m'avez répondu un roman. Lequel? Un de Vincent Message, Défaite des maîtres et possesseurs au seuil.
J'ai tendance en fait à considérer la littérature comme source d'idées et de bouleversements intimes, beaucoup plus importantes finalement que les essais. Vincent Message, donc, Défaite des maîtres et possesseurs, formule empruntée à Descartes, les maîtres et les possesseurs, ce sont les humains. Et dans cette dystopie, il imagine un monde où une intelligence supérieure a conquis la planète et où les hommes sont asservis, sont domestiqués comme le sont nos animaux de compagnie, les animaux d'élevage. Et puis il y a aussi des animaux, donc des humains sauvages qui essaient d'échapper justement à tout ça. Et la force de l'écriture, parce que avant tout c'est un livre qui est très bien écrit, fait que on s'imagine immédiatement dans cette position-là. Et je dois dire que ça, là aussi, ça bouleverse tous les repères, ce que vous disiez sur l'essai précédent qui peut-être changer la perception du monde, la mienne aussi d'ailleurs, parce que je dois dire que, petite parenthèse, je me suis mis au muesli il y a pas très longtemps, moi, pour mes petits déjeuners.
Muesli,
ah ben voyez, c'est très récent.
On va voir bientôt, vous aurez plus le temps de petit déjeuner.
Non, et là, vous venez de me dire qu'en fait, je pensais que c'était quelque chose de très vertueux. Non, j'ai tout faux. Bon, bref. En tout cas, voilà. Vincent Message, blague à part, Défaite des maîtres et possesseurs, c'est vraiment un livre fabuleux.
Voilà, après les leçons du passé avec le James C. Scott, cette dystopie sur la condition humaine que vous recommande Hervé Gardette, Nicolas Domenac, 2019, oui. Année de basculement. C'est aussi la question posée par le journaliste Écho, François Langlais, dans un essai dont vous préconisez la lecture, Tout va basculer, paru en mars dernier chez Albin Michel.
Oui, alors, je ne suis pas du tout économiste, ça tombe bien, François Langlais non plus. Il est un littéraire de formation, ce qui lui donne, au fond, un certain sens de la distance, de la formule, et qui lui permet d'être très clair et de nous raconter ces 50, 100 dernières années du capitalisme en repérant qu'il y a des cycles, à peu près, des balancements comme ça. On passe de la protection à la liberté, puis des libertés à la protection. Et la France étant à chaque fois un peu en retard sur le reste du monde, les anglo-saxons en avance. Donc pour l'instant, ce qu'il nous décrit, c'est effectivement un basculement, voir Trump, voir le Brexit, vers plus de protection, vers les frontières, et la France qui vient elle aussi, et avec effectivement des crises au bout avant de rebasculer vers la liberté. Donc ça se lit, ça se déguste, c'est petit, ça se tient, c'est costaud quand même, mais c'est pas casse-tête, quoi. C'est vraiment plaisant à lire.
Où allons-nous? Une question qu'on va se reposer avec votre dernier choix, Nicolas Domenac, mais d'abord, Emmanuel Laurentin, vous défilez. Vous aviez encore une recommandation, un Requiem.
Oui, alors écoutez, là, franchement, je vais casser l'ambiance, hein, parce que le Requiem d'Anna Armatova, on peut pas dire que ça soit très gai, mais c'est pour dire aussi qu'on peut lire de la poésie pendant les vacances. Et personnellement, c'est ce qui m'arrive. D'ailleurs, c'est la poésie qui m'accompagne avant de m'endormir le soir. Et ce Requiem d'Anna Armatova, c'est un livre incroyable, une sorte de survivance. C'est un livre qui s'est dit avant d'être écrit, c'est-à-dire c'est Anna Armatova qui était victime du régime stalinien, qui à ses visiteurs racontait patiemment ses vers, leur faisait passer sur un petit bout de papier les vers qu'elle était en train d'écrire. les gens l'apprenaient par cœur et ensuite, dans les têtes de tous ces visiteurs, il y avait ces vers qui ensuite ont été reconstitués et réécrits à partir de ce récit. C'est une métaphore pour moi de la résistance à l'oppression, la façon de tenir face à des régimes autoritaires. Et comme certains régimes autoritaires pointent le bout de leur nez, je trouve que relire Armatova aujourd'hui, c'est formidable.
Tenez, un extrait. Non pas pour nous endormir, mais pour nous inviter à résister.
En guise de préface, voici ce qu'elle dit. Au cours des années terribles du règne de Iejov, qui était le chef du NKVD, j'ai passé 17 mois à faire la queue devant les prisons de Leningrad. Une fois, quelqu'un m'a, pour ainsi dire, reconnu. Ce jour-là, une femme qui attendait derrière moi, une femme aux lèvres bleuies, qui n'avait bien sûr jamais entendu mon nom, a soudain émergé de cette torpeur dont nous étions tous la proie et m'a demandé à l'oreille, là-bas tout le monde parlait à voix basse, « Et ça, vous pouvez le décrire ?» Je lui ai répondu « Je peux ». Alors, un semblant de sourire a effleuré ce qui avait été autrefois son visage. Comment résister, comment tenir? Et la poésie aide à cela. C'est le formidable requiem de Anna Armatova, traduit du russe par Sophie Benesch.
Merci beaucoup à vous, Emmanuel Laurentin. À 9h59 ce matin, vous avez tiré le rideau de votre fabrique. L'histoire, c'est du passé, mais l'avenir, c'est le débat d'idées. Plus tard, dans la journée, un grand merci d'être passé autour de cette grande table.
Merci,
et au plaisir de vous retrouver à la rentrée prochaine. Nicolas Domenac, en un mot, c'est une autre des grandes thématiques, des sujets qui ont intéressé beaucoup les essayistes cette année. Alors, il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi la fracture sociale dans le sillon creusé par le mouvement des Gilets jaunes. Leurs enfants, après eux, ça c'est la version romanesque de cette question, un roman sensible sur l'absence d'horizon de toute une génération, prix Goncourt pour Nicolas Mathieu. Vous avez choisi, vous, la version essai avec le livre du sondeur Jérôme Fourquet, L'Archipel français.
Oui, gros travail de Jérôme Fourquet, enfin, pour nous montrer, pour nous démontrer que la matrice française a explosé, la matrice catholique, qui était aussi d'ailleurs la matrice républicaine, puisque faisait écho, au fond, la matrice catholique et la matrice laïque, et tout ça vole en éclats pour une France, justement, éparse, diverse, désormais, communautarisée, et qui l'inquiète beaucoup, mais ce qui est passionnant, c'est le travail, le relevé qu'il fait, en prenant des exemples très concrets, comme les prénoms des Français, puisque effectivement on ne donne plus Marie, en tout cas plus beaucoup, mais on bascule dans une communautarisation des prénoms, mais ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres qui ne multiplie.
Merci beaucoup, on mettra tous vos choix sur le site de la Grande Table avec toutes les références pour ceux qui souhaiteraient s'en saisir durant l'été. Merci à vous Nicolas Domenac, le nouveau magazine littéraire numéro double, Couple littéraire et destin croisé, est en kiosque aujourd'hui. Voilà, c'est fini cette grande table, troisième saison. Ce soir, le meunier du 18h présentera son dernier grain. Hervé Gardette, avec le bonheur de te retrouver dès le 26 août dans les matins de Guillaume Erner. Et le 26, c'est aussi toute l'équipe de la grande table qui sera là, fidèle au rendez-vous. Un énorme merci à Maya Neskovic et Oriane Delacroix, à Henri Leblanc et Laura Dutèche-Pérez qui nous ont accompagnés toute l'année, à Jeanne, Jordan, Mathilde et Antoine qui nous ont, eux, beaucoup appris, beaucoup aidé, beaucoup donné. Merci aussi à Milena Hellig et Marie Placet qui ont assuré la réalisation de cette grande table en alternance. Et une pensée pour Perret Legras qui a ouvert l'année aux manettes donc de l'émission. À partir de lundi jusqu'à la fin août, retrouvez Maïlys Bessery au micro de la grande table d'été. Et comme il est difficile de vous quitter, moi je vous dis à lundi à l'heure des matins, 7h, 9h, et la promesse de nouveaux rendez-vous, l'anachronique culturelle de Mathilde Serrel, le voyage en Antarctique dont Nicolas Martin nous parlait dans la première partie de la grande table, les 3 minutes de philo de Fabrice Midal, et puis deux invités chaque matin dans l'actualité culturelle ou actualité tout court. Et puis bien sûr mes camarades de la rédaction. Un dernier rendez-vous à vous indiquer, c'est la dernière de la saison aussi de l'Esprit public d'Émilie Aubry, ce dimanche en direct du théâtre de l'Odéon, suivi d'une masterclass spéciale avec Jean Plantu, renseignement à retrouver sur franceculture.fr. Très belle après-midi à tous sur France Culture, bien sûr.